La balistique de la séparation, ou comment on a fait exploser l'unité. Article paru le 19 décembre 2011. Souvent, on se demande comment on a fait pour que l'humanité arrive si bas dans la mouise. Laissez-moi vous conter un brin d'histoire en oubliant surtout l'histoire officielle qui est politique. Le pouvoir est donc 2-3D. Et l'histoire religieuse qui se veut 4D en parlant d'âme mais qui n'est elle aussi que pouvoir sur le peuple. Et oui, l'histoire ce n'est que des histoires de pouvoir qui commencent forcément par le cœur et la foi, soit la religion et les écrits sacrés très amplement modifiés selon la nécessité du moment, afin d'être plus crédibles au début, mais qui compte tenu de la dégradation du niveau de conscience ont permis au pouvoir politique de créer ses propres règles. Celles-ci, s'appuyant sur les croyances religieuses en place, firent apparaître une arme redoutable pour contrer la foi aveugle des croyants, que l'on nomma avec élégance la science, celle de saint Thomas. En clair, si je ne vois pas et ne touche pas, ça n'existe pas. Ainsi, au fur et à mesure que la science prenait le pas sur la religion, le pouvoir changea de main. Dit autrement, on est passé de la croyance en des dieux et de l'au-delà, parce qu'on sentait, comme une âme en nous, à une croyance basée sur la séparation totale d'avec le tout. Cela grâce à quelques individus célèbres, nommés précisément Isaac Newton, anglais protestant, probablement d'origine juive d'après le prénom, René Descartes, français, passé par l'école des jésuites, et Charles Darwin, anglais protestant, et Albert Einstein, né allemand, immigré suisse, juif et en plein pays protestant, puis naturalisé américain. Je donne quelques détails sur les origines culturelles et religieuses des 10 individus, car si je ne le faisais pas, vous ne pourriez pas vraiment comprendre comment le catholicisme du Vatican s'est fait exploser en vol. Vous en conviendrez que tous les commentaires racistes à ce propos sont purement et simplement non publiés sur ce blog, parce que ce n'est pas le but du jeu, celui de la dualité, de la séparation et de l'ego. En effet, au XVIIe siècle, l'Église était encore toute puissante, mais elle ne pouvait plus arrêter ceux qui en avaient marre qu'on leur fasse prendre des vessies pour des lanternes. Léonard de Vinci fut l'un des précurseurs, et il fut bien heureusement suivi d'une myriade d'autres styles Copernic, par exemple, qui dut désavouer sa théorie selon laquelle c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, et non l'inverse, pour sauver sa peau. Bref, notre cher Isaac, grâce à sa compréhension du phénomène de la gravitation, se mit à élaborer une théorie qui disait qu'il y avait la matière d'un côté et l'âme de l'autre. La première réagissait à des règles précises, non équivoques, reproductibles et donc fiables. En clair, tout le contraire des lois religieuses en constante réinterprétation. En cela, il fut largement appuyé par René Descartes qui jeta les cartes d'un rationalisme séparant bien les choses. Être cartésien veut donc bien dire faire la part des choses entre le rationnel et l'irrationnel. Ainsi, nos deux bons hommes ont réussi à faire exploser l'idée que la matière était connectée à l'âme et qu'en fait nous n'étions que des pièces détachées assemblées et que le tout ne voulait plus rien dire. Ce fut là la première et une irréductible séparation entre le corps et l'âme, puisque l'esprit, lui, se plaçait en observateur tout simplement. C'est ainsi que la fusée corps-âme-esprit vola tout simplement en éclats. C'est sûr que la croyance aveugle en la religion d'État s'est pris un coup dans les dents au point de ne plus pouvoir mordre ce qui se passa ensuite. Ainsi, Isaac, né en 1643 et mort en 1727, s'appuya sur le cartésianisme de René, né en 1596 et mort en 1650, pour définitivement opposer la science à la religion, créant ce que de ce fait une autre religion, se disant athée par principe. La science d'aujourd'hui est encore totalement empreinte de cela dans quasiment toutes ses disciplines. C'est ainsi que tout ce qui ne se trouve pas dans les lois est dit paranormal, c'est-à-dire à côté de ce qui est considéré normal. En clair, la télépathie que maman a avec son bébé relève donc implicitement du truc irrationnel, non reproductible en laboratoire et impossible à modéliser. En effet, les scientifiques n'en prennent pas le verbe pour communiquer, mais les équations. C'est un véritable langage à lui tout seul et que l'on appelle la mathématique. En clair, si tu veux faire de la science, il faut te taper obligatoirement les maths. Dit autrement, on essaie de voir la touche du créateur à travers des concepts écrits possédant des conventions mateuses. Vu sous un autre angle, il est normal de jouer à l'écarté, faire le grand écart dans la vie de tous les jours, car on oscille en permanence entre le cœur égo, la religion vue par le mental, et le mental égo, la vie vue par la raison scientifique. Il est clair que lorsque votre petite voix, votre intuition, vos ressentis vous parlent, c'est difficile de les mettre dans les deux camps proposés. En clair, si on baigne dans la séparation maximale, c'est parce que les règles que nous prenons pour référence sont en fait totalement incompatibles avec la réalité de ce que l'on est vraiment. Je rappelle que tout ça a démarré il y a 350 ans, époque où les toilettes n'existaient pas, voire château de Versailles et autres, que l'électricité était inconnue, les bactéries aussi, et je ne parle pas du téléphone, fax, photocopieur et eau courante, sans parler du vélo, du pneu ou du moteur à explosion ou de la lampe à pétrole. Dit autrement, les principes même de notre civilisation actuelle datent de la préhistoire tout simplement. Et on croit qu'avec cela, on va aller voyager dans le temps et régler tous les problèmes de guerre. En effet, nous essayons d'éteindre l'entrepôt en jetant de l'huile dessus. Passons donc à Charles Darwin, de 1809 à 1882, qui, fort de cet enseignement séparatiste, vit dans la nature comme une lutte, comme une survie, où le plus fort bouffait le plus faible, et cela apporta ce qui fut appelé l'évolution. En d'autres termes, cela veut dire qu'en fonction de l'irruption d'un volcan, d'une météorite qui passait par là ou d'une météo capricieuse, la vie s'adaptait, déterminant ainsi la loi du plus adapté. En clair, ce que la vie est actuellement n'est que la suite normale et rationnelle d'un changement environnemental où la règle du hasard et de la survie est indissociable. Où est Dieu là-dedans ? Nulle part apparemment. Sinon, on peut dire qu'il ne contrôle rien du tout de sa création. En bref, il est nul, et ce n'est donc pas un type à suivre. C'est ainsi Dieu. Mais cela a fait de lourds dommages dans les relations intérieures des individus avec leur propre divinité. En effet, l'âme est passée aux oubliettes dans l'affaire. Les hommes furent troublés profondément car cela voulait dire que Dieu jouait au dé avec eux et qu'ils naissaient sans but précis, une seule fois, et qu'ils allaient redevenir poussière de toute façon. De plus, imaginez un peu qu'il y a un siècle, les femmes ne pouvaient pas voter parce qu'elles n'avaient pas d'âme. Alors, que penser quand on nous affirme que l'on descend du singe ? Lui, c'est sûr. Il ne pouvait pas avoir d'âme au même titre que tous les animaux. Alors, c'est quand que l'homme mâle s'est vu choper une âme. On voit donc bien que la théorie de l'évolution est un truc anti-religieux par essence. Et puis la notion d'avoir qu'une vie et une seule était aussi devenue la norme dans ce monde occidental grâce au christianisme qui a viré cette évidence des Écritures n'a été que confirmée par la science. Je rappelle que la théorie de la réincarnation en Occident ne date que du XXe siècle, et surtout à la fin. En effet, si en 1980 tu osais parler de réincarnation, on te prenait pour un fou du Nouvel Âge, qu'il fallait brûler en enfer dès que possible. Et oui, aujourd'hui, si tu dis que tu as fait ceci ou cela dans une vie antérieure, le préhumain classique prendra ça comme le disait ma mère, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, en pensant à une période dans une vie présente. Mais si tu dis « quand j'étais japonais, un cas au 1e siècle », on te prend vraiment pour un déséquilibré. Alors que dire si tu dis « quand j'étais Atlante » ? Bref, notre monde d'aujourd'hui avance très très vite en termes de changements comportementaux, car cela est dû au matraquage intensif des nouvelles énergies. Mais cela n'empêche pas que l'on essaie toujours de vivre selon des règles qui datent de 350 ans et plus. Bref, pour les plus avancés, ceux qui aiment se gargariser en plaçant la relativité d'Einstein au pentacle, en utilisant le mot quantique à tout va, ne sont pas mieux lotis en fait. En effet, Albert, ainsi que de nombreux collègues de l'époque, essayèrent de faire comprendre que d'après les équations, il fallait relativiser ce que l'on prenait pour absolu. Relativiser, le mot gentil pour dire que ce que tu prends pour une vérité inébranlable ne l'est pas vraiment. Dit autrement, tu dis la vérité, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que ça dépend d'eux. C'est ainsi qu'Albert a introduit la variable du temps. En effet, la gravitation de Newton est calée sur le mouvement régulier des planètes autour du Soleil, le temps linéaire, celui qui ne fluctue pas, celui qui reste toujours le même. Une seconde restera toujours une seconde. Or, Einstein démontra que les secondes peuvent varier selon la position d'observation dans laquelle on se trouve. Dit autrement, une seconde pour un préhumain dans sa maison ne sera pas la même pour un type en orbite sur la Lune, et encore moins s'il vient à faire un petit tour dans l'espace pour revenir ensuite. En clair, le temps serait comme un élastique qui se tend et se détend selon la gravitation des planètes rencontrées. De la gravitation n'est passée à la grave itération, où chaque itération n'est pas forcément identique à la précédente. En effet, comme les lois de la relativité remettaient en cause complètement le système newtonien sur lequel est basée toute la science officielle, y compris la médecine nous traitant comme des assemblages de pièces détachées avec la chimie en exergue pour fabriquer du médicament sauveur, il a fallu trouver un artifice politiquement acceptable. La solution fut toute trouvée. Ce que l'on voyait sous le microscope était newtonien et ce que l'on voyait pas était quantique. Comme à l'époque de l'élaboration du fameux E est égal à MC2, on était quasiment en pleine guerre de 14-18, il était impossible de démontrer que les équations reflétaient une quelconque réalité. En effet, imaginez que pendant ces tripets, avec des chars à bœufs tractés par des chevaux, avec quelques voitures ou camions poussifs dans une guerre de tranchées très fatale, une nouvelle religion était en train de naître. En effet, toute la théorie quantique n'était que supposition et croyance. Einstein, de 1879 à 1955, était un visionnaire, un génie dont on a mis le très gros cerveau dans du formol afin de l'étudier. En effet, on y retrouve la croyance lourde que la taille et le poids du cerveau contribuent à la quantité d'intelligence qui peut en émaner. Ça, c'est très newtonien, indiquant que la quantité de matière prime avant tout et surtout par rapport à l'âme et au contact que l'on peut avoir avec notre divinité qui scientifiquement est irrationnelle et donc paranormale. En d'autres termes, ceci est donc un troisième clivage, vécu inconsciemment par toute l'humanité, qui dit que celui qui a le plus gros cerveau aura une plus grande intelligence et sera donc apte à mieux survivre et donc à mieux bouffer les autres. C'est ainsi que l'on peut voir comment le fait d'avoir écrit Polytechnique, Harvard ou MIT sur votre CV fait de vous quelqu'un qui aura les meilleures places dans les rouages de l'organisation humaine. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de fréquenter et travailler avec un nombre certain de ces diplômés et je peux affirmer qu'ils sont loin d'être les meilleurs et que surtout, ils sont presque à l'opposé de l'intelligence du cœur où règne l'intuitivité. Quand cela leur arrive d'avoir une véritable intuition, ils s'empressent de la mentaliser à fond pour faire croire que c'est leur intelligence qui en est à l'origine. Même Einstein l'a dit et avoué publiquement. S'il a été un génie, c'est parce que précisément il a été en contact avec son soi supérieur et non pas parce qu'il était intelligent. En effet, ce n'est qu'à sa mort que les toubibs ont pu savoir la grosseur et le poids des encéphales d'Albert. En cela, je veux dire qu'il vous faut abandonner toute idée de votre manque d'intelligence, que vous n'êtes rien, que vous êtes un raté parce que peu ou pas de diplôme. Non, car en vous connectant avec votre soi supérieur, vous accédez à une intelligence qui dépasse la somme de toutes les intelligences des dix plus grands cerveaux qu'on n'a pas qu'à porter cette planète. L'intelligence du cœur est incomparablement très très supérieure à tout ce que vous pouvez imaginer. Alors servez-vous-en à fond et vous verrez que le manque de formation conventionnelle est une aubaine super balèze parce que vous ne serez pas encombré de tout ce fatras de croyances scientifiques qui vous induisent en erreur. En effet, le Big Bang n'est qu'une théorie basée sur l'expansion linéaire. On veut mesurer le temps, tout en sachant qu'au temps T de la création, tout était là, dans rien du tout, dans une tête d'épingle, et que cela a donné tous les milliards de galaxies que les télescopes nous montrent. On nous parle de la théorie des cordes, qui elle-même est basée sur une variante du Big Bang, etc. En cela, je veux vous dire que si vous désirez découvrir le nouveau monde, il va falloir arrêter de vous remplir le bocal avec toutes les projections mentales ou égotiques de scientifiques pas foutus de se mettre en relation avec leur intelligence du cœur. Comprenez que la quasi-majorité des reportages sur les théories scientifiques ne sont que des projections basées sur des croyances datant de plus d'un siècle. Et oui, il a fallu attendre les années 2000 pour commencer à voir des trucs émis du temps des années 1900. Et encore, on les trouve parce qu'on y met des moyens colossaux. Ainsi, tôt ou tard, on trouvera toujours une preuve réelle de ce que l'on veut voir. Mais qu'en est-il de ce que l'on ne veut pas voir et qui pourtant appartient à notre quotidien ? Comment peut-on vouloir écrire en équation un sentiment une pensée ou un état de conscience. Oui, je vous le dis autant, je vous répète à l'envi, qu'il faut lâcher prise sur les croyances, les liens affectifs et d'une certaine manière sur un art de vivre matériel. N'oubliez pas que la science n'est qu'une religion et qu'elle est aussi bornée que le Vatican. Ce n'est donc pas par hasard que parmi les personnes que j'ai nommées, aucune n'a été catholique, vaticane. En effet, on ne peut cracher dans la soupe qui vous nourrit. C'est aussi en cela que je désire vous faire comprendre que tant que vous serez un fidèle d'une quelconque religion, qu'elle soit philosophique ou scientifique, vous ne ferez que retarder votre envol et vous ne ferez que vous alourdir en conséquence si vous persistez. Oui, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme un coup de poignard, car vous pensiez à raison que plus vous ingurgiteriez d'informations philosophiques officielles et scientifiques officielles, et plus vous progresserez. Eh bien non, car c'est un leurre de l'ombre, afin de vous écarter de votre propre lumière, celle qui vous habite et qui n'a besoin d'aucun manuel technique pour être vécue. Apprendre pour comprendre est une illusion, car avec de l'information datant de la préhistoire, où on s'éclairait à la bougie, on ne peut par extension découvrir du nouveau, du neuf, du frais. La source de tout est en vous, et non à l'extérieur de vous. Rappelez-vous-en. Ce qui peut vous être apporté de l'extérieur ne peut être que reconnexion avec vos propres banques de données. Discernez donc son attrait intellectuel, pure demande du mental ego, de l'effet de résonance pour reconnexion à vous-même n'est pas la même chose. Ne cherchez donc pas ou plus à comprendre par vos neurones, mais plutôt à rentrer en résonance avec ce qui est. C'est ainsi que la véritable connaissance viendra à vous, et pas autrement. Remettez l'intelligence mentale à sa place, au même titre que le mental ego, car ils appartiennent tous les deux au troisième chakra, à la 3D, à la zone du pouvoir qui veut dominer, quitte à utiliser la séparation pour parvenir à ses fins. Cette intelligence mentale est au service de l'intelligence du cœur, qui, elle, s'abreuve directement auprès du soi supérieur, qui est lui-même connecté à l'ensemble de la création. Raisonner, c'est entrer en contact avec l'information véritable, et ce n'est qu'ensuite que vous raisonnerez afin de prendre conscience, consciemment, de votre pouvoir de co-créateur. Alors si vous raisonnez la vibration, si vous ne raisonnez pas, passez votre chemin, car ce n'est pas utile pour vous au moment présent. Rappelez-vous que c'est votre soi supérieur qui, au quotidien, vous dira ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin du retour au bercail. Suivez simplement les poteaux indicateurs et ça suffira. En effet, vous n'avez nullement besoin d'avoir toute la carte et de savoir par où vous allez passer. Le chemin est l'expérience et la destination est sans véritable importance, car tôt ou tard, vous arriverez à franchir la ligne de l'oubli. C'est alors que vous constaterez que vivre, l'icité, est le chemin le plus court, le plus rapide et surtout le moins fatigant pour revenir au bercail. Alors pourquoi faut-il s'emmerder avec les piaffreries égotiques qui ne font que vous alourdir, entraînant fatigue, état dépressif, souffrance et maladie? Redécouvrir l'état unitaire, c'est d'abord comprendre qu'il faut arrêter de jouer avec des règles de séparation. Est-ce si dur à comprendre? Ressentez-le dans votre cœur et la réponse sera immédiate, du style « Pourquoi veux-tu continuer à en chier? Et pour qui ?»